Aujourd'hui, l'émission est organisée par Jules Monod, Malone Marty et Maya Faure, élèves du collège Jeanne d'Arc de La Rochalie. Nous vous proposons une émission sur Roland-Garros afin de fêter le centenaire des tournois de tennis de Roland-Garros. Pour ce faire, la commune de La Rochalie a organisé du 28 octobre au 28 novembre 2024 une exposition dans le hall de la salle de spectacle en partenariat avec le groupe Aéronautique Safran au sujet des grands aviateurs de la Première Guerre mondiale comme Roland Garros. Ainsi, je passe maintenant la parole à Maya qui va vous faire la biographie de Roland Garros.
Roland Garros est un tennisman français né à Saint-Denis de la Réunion le 6 octobre 1888. Dans sa jeunesse, il faisait du foot, du rugby et du cyclisme, mais à partir de 12 ans, il est atteint de problèmes respiratoires. Il assiste à son premier meeting aérien en 1909 et devient alors passionné d'aviation. Il a d'abord appris à piloter tout seul avant de passer son brevet d'aviateur. Le 6 septembre 1911, il bat déjà un premier record d'altitude en partant de la plage d'Houlgate. Son record est alors de 3910 mètres d'altitude. Il traverse la mer Méditerranée le 23 septembre 1913, ce qui n'a encore jamais été effectué. Il relie Saint-Raphaël, à l'ouest de la ville française de Cannes, sur la côte méditerranéenne de la France, à la ville littorale tunisienne de Bizerte. En août 1914, la Première Guerre mondiale éclate. Roland Garros se porte volontaire dans l'armée de l'air pour faire des missions aériennes. Il contribue à améliorer le système de tir des mitrailleuses à travers l'hélice mise au point par Raymond Saulnier à la fin du mois d'octobre 1914. Ainsi, le pilote n'a plus besoin d'un passager mitrailleur pour utiliser une mitrailleuse. Par conséquent, l'aviation française est meilleure que l'aviation allemande. En avril 1915, il est fait prisonnier. En 1918, un officier allemand, il arrive à s'échapper. Son avion est touché en 1918 le 5 octobre et meurt. Son nom a été pris pour le stade de tennis de Roland-Garros pour les compétitions dès le 29 juillet 1928.
Nous avons vu la biographie de Roland-Garros et maintenant je vais vous expliquer l'origine du nom du stade de Roland-Garros.
Le stade de Roland-Garros est un stade de tennis construit en 1927 et situé à l'ouest de Paris. Il accueille tous les ans les internationaux de France de tennis, créés en 1891, ainsi que les Paris Major Premier Padel depuis 2020. Le nom de ce stade est un hommage au pionnier de l'aviation Roland-Garros, décédé dans un combat aérien de la Première Guerre mondiale. Le stade a été fabriqué en bois lors de l'hiver 1927 à 1928 pour pouvoir accueillir en 1928 la Coupe Davis. C'est Émile Lézieur, compagnon de Roland Garros, qui impose le nom de ce stade afin d'honorer son ami défunt le 5 octobre 1918.
Nous avons vu l'origine du nom de stade Roland Garros et maintenant Maya va nous dépeindre les portraits de quelques grands vainqueurs de tennis au stade Roland Garros au début de la Coupe Davis.
Les quatre mousquetaires étaient une équipe de tennis française composée de René Lacoste, surnommé le Crocodile, de Jean Borotra, baptisé le Basque bondissant, de Henri Cochet, dénommé le Magicien, de Jacques Brugnon, ayant pour surnom Toto. Cette équipe est surnommée ainsi en référence au célèbre roman d'Alexandre Dumas, Les Trois Mousquetaires, qui ont fait de nombreux exploits et qui sont au nombre de quatre avec D'Artagnan, Athos, Porthos et Aramis. Ainsi, les membres des quatre mousquetaires ont remporté les six Coupes Davis entre 1927 et 1932 et ont dominé le tennis mondial dans les années 1920-1930. Ils ont gagné 40 tournois du Grand Chelem. Ce terme de Grand Chelem est inventé par le journaliste du New York Times, Alison Denzing, afin de saluer la performance du tennisman Donald Bridge en 1938 pour avoir gagné l'Open d'Australie à Melbourne, les internationaux de France de tennis à Roland-Garros, le tournoi de Wimbledon à Londres et l'US Open à New York. Les quatre tournois du Grand Chelem sont le rendez-vous à ne pas rater des tennismen professionnels. C'est à partir de cette date que nous considérons le tennis professionnel comme moderne. C'est l'ère des statistiques et des records.
Nous avons vu l'histoire des quatre mousquetaires et maintenant nous allons évoquer un événement retentissant qui s'est produit dans le monde du tennis à la fin de l'année 2024. L'annonce de la retraite du tennisman Rafael Nadal, je passe la parole à Jules qui va nous en dire plus sur ce sportif.
Rafael Nadal prend sa retraite le jeudi 10 octobre 2024 à 38 ans après 22 titres du Grand Chelem. Le propriétaire de 220 millions de dollars s'est fait battre le plus souvent par le talentueux Djokovic. Le joueur serbe est l'auteur du palmarès le plus complet de l'ère Open. Djokovic a remporté 24 titres du Grand Chelem. Son adversaire, Rafael Nadal, né le 3 juin 1986 à Manacor, en Espagne. Monsieur Nadal est passé professionnel de 2001 à 2024. Il est considéré comme le meilleur tennisman en terre battue de l'histoire du tennis, établissant des records jusqu'ici imbattus par ses adversaires. Rafael Nadal a établi 22 tournois gagnés du Grand Chelem. Il a démarré sa carrière de professionnel en 2001. Il a pris sa retraite le 10 octobre 2024. À 24 ans, il devient le plus jeune joueur du tennis de l'ère Open.
Nous venons d'écouter Jules qui nous a présenté une brève biographie de Rafael Nadal à la suite de son départ en retraite le 10 octobre 2024 et de son rival Djokovic. À présent, nous allons faire une pause musicale avec la chanson 100 Miles de Wall et Gabriella Richardson, sortie en 2015 où le clip officiel se déroule en partie sur un terrain de tennis.
Visit my world. Come here and visit my world. Did history shine in stars? Our love is the only way. Don't get lost, cause I'm waiting. Summer feelings are waiting, boy. You and me is more than 100 miles. You and me is more than the gray sky. Dance with me one more time. You and me is more than 100 miles. You and me is more than the red sky. You and me is more than lonely days. It's our time to go. Dance with me one more time. Come here and visit my world. Did history shine in stars? Our love is the only way. Don't get lost, cause I'm waiting. Summer feelings are waiting, boy. You and me is more than 100 miles. You and me is more than the gray sky. You and me is more than the lonely days. It's our time to go. Dance with me one more time. Dance with me one more time. One more time. You and me is more than 100 miles. You and me is more than the great sky. You and me is more than the world. It's our time to go. Dance with me one more time.
Nous venons d'écouter 100 Miles de Wall et Gabriella Richardson. Vous êtes sur une émission proposée par Jules, Maya et Malone, élèves au collège de Grendart de La Rochalie, qui a pour sujet le centenaire des tournois de Roland-Garros. Pour les auditeurs qui nous rejoignent, nous avons évoqué la retraite de Rafael Nadal des tournois de tennis. Jules va maintenant parler de l'histoire du tennis, commençant par ses origines, afin de clarifier l'histoire générale de ce sport.
Le tennis est né dans le cloître monastique au nord de la France au XIIe siècle, mais la raquette n'était pas utilisée pour ce sport. On utilisait la paume de la main. Ce n'est qu'au XVIe siècle que les raquettes entrent dans le tennis, auparavant appelé jeu de paume, qui se fait alors rebaptiser tennis.
Nous avons vu maintenant l'histoire du tennis. Je passe maintenant la parole à Maya qui va nous expliquer le principe du jeu de paume, l'ancêtre du tennis actuel.
Le jeu de paume est un sport exercé en Europe depuis l'Antiquité. D'abord pratiqué à main nue ou avec un gant, il devient alors un jeu de raquette au XVIe siècle. C'est l'ancêtre de la pelote basque, la pelote valencienne et du tennis. Le joueur de pomme est appelé pommiste ou pommier. Le jeu de pomme est divisé en deux catégories. La courte pomme, venant des États-Unis, se jouant à l'intérieur, et la longue pomme, pratiquée en extérieur. Le jeu de pomme est associé au serment du jeu de pomme lors de la Révolution française et au jeu de pomme, lieu d'exposition parisien. Le serment du jeu de pomme est un engagement solennel d'union dans le but de mettre fin à l'ancien régime, pris le 20 juin 1789 à Versailles, avec 576 députés français comptant des catégories de personnes favorisées, quelques professions intellectuelles supérieures, des membres du clergé. Toutefois, il y a peu d'ouvriers ou d'employés sociaux. Ces députés firent le serment de ne jamais se séparer avant l'élaboration d'une constitution pour lutter contre la monarchie absolue, la remplaçant par la démocratie. La constitution de la Première République est adoptée en 1791. La Première République se termine en mai 1804 avec le coup d'État de Napoléon Bonaparte et la mise en place de l'Empire.
Nous avons vu l'histoire du jeu de pommes. Je passe maintenant la parole à Jules qui va nous présenter le tableau du serment du jeu de pommes de Jacques-Louis David.
Le tableau du serment du jeu de pomme de Jacques-Louis David est une huile sur toile inachevée. La toile mesure 3,4 mètres de haut et 6,54 mètres de long, ce qui indique qu'il s'agit d'une œuvre de très grande dimension. Il est conçu pour être exposé dans le musée du Louvre à Paris. Cette toile ambitieuse devait immortaliser l'union contre la fin de l'ancien régime. Cet événement a eu lieu le 20 juin 1789 dans la salle du jeu de pomme à Versailles par 576 députés français. Ces députés convoqués à Versailles dans le cadre de l'État généraux en 1789 sont en grande majorité des membres du tiers État avec quelques représentants du clergé et de la noblesse. Il est considéré comme un acte fondateur de la République française. Après ce serment, une assemblée nationale constituante est mise en place. Elle abolit les privilèges et rédige la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Le tableau a été réalisé en 1790 et le serment a lieu en 1789. Au centre, il est possible de voir le député Jean-Sylvain Bailly, le président de l'Assemblée, qui lit le serment, tandis que les autres députés lèvent leurs bras en signe d'adhésion. Nous pouvons aussi apercevoir Mirabeau, membre de la noblesse, mais député du tiers état aux états généraux après avoir été rejeté par la noblesse. Debout en hauteur par rapport à la foule, se trouve à ses pieds. Cette foule est composé de nobles, de clercs et de membres du tiers état. Robespierre, grande figure de la Révolution française, l'abbé Grégoire, député et membre du clergé, ils sont aussi représentés. Le tableau dégage une émotion de liberté marquant la fin de la monarchie absolue.
Nous avons présenté le tableau du serment du jeu de pommes de Jacques-Louis David. Je passe maintenant la parole à Maya qui va nous faire une biographie de ce peintre.
Jacques-Louis David, célèbre auteur français, est né le 30 août 1748 à Paris et meurt le 29 décembre 1825 de maladie. Sa carrière de peintre commence officiellement en 1784 avec le serment des Horaces. En plus de sa carrière de peintre, il mène en parallèle une vie politique. Son engagement l'oblige à voter pour la mort de Louis XVI, qui est guillotiné le 21 janvier 1793. Il est également d'accord avec les propos de Maximilien de Robespierre, ce qui lui vaut un emprisonnement. Il se prend ensuite d'admiration pour Napoléon Bonaparte. C'est d'ailleurs sous son règne qu'il réalise l'œuvre « Le Sacre de Napoléon » en l'honneur du dirigeant.
Nous venons d'entendre la biographie de Jacques-Louis David. Je passe maintenant la parole à Jules qui va nous expliquer un autre tableau important de Jacques-Louis David, « Le Sacre de Napoléon ».
Le Sacre de Napoléon est un tableau de Jacques-Louis David fait entre 1805 et 1807. Il représente le Sacre de Napoléon qui a eu lieu le 2 décembre 1804 dans la cathédrale Notre-Dame de Paris. Le tableau atteint les proportions hors du commun. 6,21 mètres de haut sur 9,79 mètres de long et il est conservé au musée du Louvre. Il illustre le moment où Napoléon, après avoir reçu la bénédiction du pape Pie VII, se couronne lui-même et couronne son épouse Joséphine de Beauharnais, ce qui marque une rupture avec le protocole traditionnel où le pape aurait dû couronner l'empereur. Il se couronne lui-même car il affirme qu'il a obtenu le pouvoir seul et sans la bénédiction de Dieu. L'œuvre est une commande de Napoléon lui-même qui a coûté 65 000 francs. Il a été réalisé en 2 ans avec l'aide de 2 assistants. Ce tableau illustrait le néoclassicisme en mettant en valeur le couple royal en renforçant la légitimité de la royauté napoléonienne. En résumé, ce tableau représente le pouvoir de l'empereur français.
Nous venons d'écouter Jules qui vient de nous décrire le sacre de Napoléon de Jacques-Louis David. À présent, nous allons faire une pause musicale avec la chanson Tennis Club de Tal Tal, sortie en 2021, qui raconte l'histoire d'une femme qui s'inscrit dans un club de tennis pour oublier sa rupture. Tennis Club de Tal Tal, vous êtes sur une émission proposée par Jules, Maya et Malone, élèves au collège Jeanne d'Arc de la Rochalie, qui a poursuivi le centenaire des tournois de Roland-Garros. Pour les auditeurs qui nous rejoignent, nous avons évoqué certains tableaux historiques de Jacques-Louis David, comme le serment du jeu de pommes et le sacre de Napoléon. Jules va maintenant vous parler d'une des variantes du jeu de pommes, la pelote basque.
La pelote basque a commencé à se développer au 7e siècle en s'inspirant du jeu de pommes. Ces règles actuelles datent du 19e siècle, au moment où les Basques ont décidé d'apporter au jeu de pommes des spécificités du territoire basque. Pour jouer à la pelote basque, il suffit de jeter une balle contre un mur pour qu'elle rebondisse une fois jusqu'à l'autre joueur. Les Basques s'affrontent sur des frontons et des trinquets. De nombreux villages basques ont un fronton, c'est-à-dire un mur sur lequel jouer à la pelote basque au centre du village. Quant au trinquet, c'est une couverte entourée de quatre murs afin de jouer à une autre variante de la pelote basque. Le bandosier léger appelé le Chistera est créé à Saint-Pé-sur-Nivelle par hasard lors d'un match de pelote basque. Sortie du terrain, la pelote a été lancée au joueur par un paysan avec son panier en osier. Le lancer de ce paysan était bien plus fort que ceux des joueurs. Cet événement a donc inspiré l'invention du Chistera. La Fédération française de pelote basque est créée en 1921, réglementant ainsi officiellement ce sport.
Nous avons vu brièvement la pelote basque, un des sports dérivés du jeu de pommes. Je passe maintenant la parole à Maya qui va nous expliquer l'histoire du tennis moderne.
Le tennis moderne naît dans les années 1870 en Angleterre. Le premier tournoi a lieu à Londres en 1877. Il est appelé le tournoi de Wimbledon et permet la standardisation de ce sport. Pour débuter un match de tennis, il suffit de servir dans le carré avec une raquette. Pour gagner le point, il faut que l'adversaire rate sa balle, la jette en dehors du terrain ou la mette dans le filet. L'une des particularités du tennis est le comptage des points. Le premier point vaut 15, le deuxième 30 et le troisième 40. Pour gagner un jeu, il faut que le joueur ait 2 points d'avance sur l'autre joueur. Le jeu continue donc tant que les deux joueurs n'ont pas ces 2 points d'écart. Ce jeu se fait généralement en 3 sets, c'est-à-dire en 3 manches, mais il peut être arrêté si un des joueurs a gagné les 2 premiers sets. Dans les tournois du Grand Chelem, le jeu se fait en 5 sets, mais le match peut être arrêté si l'un des 2 joueurs gagne les 3 premiers sets. Le match de tennis le plus long de l'histoire a été disputé à Wimbledon en 2010 par le tennisman états-unien John Isner et le français Nicolas Mahut. Au total, il a duré 11h05 et il a été étalé sur 3 jours, du 22 juin au 24 juin 2010. Le 5e set à lui seul a duré 8h11. Le tennis est un sport assez ouvert car il intègre les femmes dès le départ. Ainsi, le tennis féminin est présent dès les premières éditions des Jeux Olympiques de Paris en 1900, même si le double féminin n'est intégré qu'aux Jeux Olympiques d'Anvers en 1920. En 1928, le club féminin et sportif de Barcelone est créé afin d'encourager le tennis féminin. Toutefois, ce club ne survit pas à la guerre civile en Espagne et à la dictature franquiste, puisqu'il est interdit en 1939. La première véritable vedette du tennis est la Française Suzanne Lenglen, en devenant championne du monde en 1914 à l'âge de 15 ans et en devenant la première joueuse de tennis professionnelle en 1926. Au total, dans sa vie qui a été écourtée par une leucémie à l'âge de 39 ans, elle a remporté 241 tournois. Par exemple, elle a gagné 6 fois Roland-Garros et 6 fois Wimbledon en simple et elle est médaillée d'or en simple dame aux Jeux Olympiques d'Anvers en 1920. En son honneur, le deuxième grand court du stade de Roland-Garros, construit en 1997, porte son nom. D'autres joueuses de tennis sont devenues célèbres, comme l'Allemande Steffi Graf, qui a obtenu un record inégalé encore aujourd'hui par d'autres joueurs de tennis, hommes ou femmes. Elle a remporté 4 tournois du Grand Chelem. Elle a aussi été médaillée d'or en simple aux Jeux Olympiques de Séoul en 1988.
Ainsi s'achève notre émission en l'honneur du centenaire des tournois de tennis au stade de Roland-Garros. Nous remercions Madame Brujassou, professeure d'histoire-géographie EMC, pour nous avoir accompagnés tout le long de la création de notre émission. Merci à la radio Liberté FM pour nous avoir permis de passer à l'antenne. Vous étiez avec la productrice de l'émission et chroniqueuse Maya Faux, le chroniqueur Jules Monod et ainsi que moi-même le présentateur de l'émission Malone Marty. Nous espérons que ça vous a plu et nous vous disons à bientôt pour un prochain numéro.